quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque, aux archives et dans les musées? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien? Mon nom est Pascale Tremblay, voici Annexe. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue au quatrième épisode de la saison 3 intitulé « Art et Nationhood, déconstruction identitaire des communautés ». Pour en discuter, je suis en compagnie de Cassandra Lavoie, qui est à la maîtrise en muséologie à l'Université de Montréal, sous la direction d'Analaïs Alvarez Hernandez et de Rodrigo D'Alcantara, qui est au doctorat en histoire de l'art à Concordia, en co-direction, hein, si je ne me trompe pas, oui, avec John Potvin et Mechio. Donc, avant de commencer, l'équipe tient à remercier de nouveau le Centre PHI pour son si chaleureux accueil dans leur superbe studio d'enregistrement. Donc, pour situer nos auditeurs et auditrices, je vous demanderais de briser la glace en nous expliquant un peu où vous en êtes rendu dans vos recherches, puis quel est justement aussi votre sujet de recherche, parce que vous en êtes à des étapes différentes aussi dans votre parcours. Alors, on va commencer avec Cassandra.
Merci. En fait, moi, actuellement, je suis en rédaction de mon travail dirigé. Et donc, je suis à presque la fin à mon analyse, justement. Mon sujet de recherche se base sur la représentation des diasporas chinoises à travers les expositions de musées publics. Donc, je fais une analyse comparative entre les expositions du Royal BC Museum et le Centre des mémoires montréalaises. Donc, une exposition qui s'est faite en 2013 qui s'appelait Traditions and Felicities, qui célébrait en fait le 155e anniversaire du quartier chinois de Victoria, qui est le plus ancien quartier chinois au Canada. Puis, je fais en comparaison avec l'exposition qui a été faite l'année dernière par le Centre des mémoires montréalaises à même le quartier chinois de Montréal, Dialogue avec les communautés sino-montréalaises. Donc, je regarde comment, j'analyse en fait comment les communautés chinoises sont représentées avec les dynamiques des quartiers chinois.
Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, allons de nouveau pour cet épisode-ci opter pour le bilinguisme actif. Donc, Cassandra va faire son intervention en français, toujours les questions de ma part en français, et Rodrigo va s'adresser à nous, mais en anglais. Alors, Rodrigo, si tu voulais nous présenter ton sujet, on t'écoute.
Merci beaucoup pour la présentation. My research is like an open process, and in the beginning I was more interested in identifying the utopian and dystopian aspects of our present. And then as I moved here in Canada and I am getting in my third year of my PhD, I realized that I needed to expand my scope of knowledge, of work, and I embraced a more transversal historical revisionist perspective, in which I am studying like the different historical arcs that compose Brazilian art history. Being from Brazil myself, I think it's really important like to identify how I can play this role in academia, being in North America. I go back to pre-colonial times. I try to rescue some indigenous and Afro-diasporic cosmovisions that took place in Brazil as part of the Brazilian identity, and also how the art history from Europe intervened in this imaginarium regarding Brazil and all the stereotypes, the exotisms that were created from this era. Once I go further in time and I come to the modernist arcs and the contemporary times, I also am interested in identifying the mutually dependent phenomena, which is a concept coined by Kenzie Cornejo, Latina researcher based in the US, a professor. So basically it's a concept that investigates the correlations between colonialism, globalization, modernism, and capitalism. Yeah, I try to approach contemporary art and go back to these other arcs from history and put them in perspective.
Donc, une première question que j'aimerais vous poser par rapport justement à la thématique sous laquelle vous avez été réunis, qui est Art et Nationhood, déconstruction identitaire des communautés. J'aimerais vous entendre sur cette notion de nationhood. Qui veut commencer? Qui veut plonger?
Do you want me to?
Yeah, you can, if you want. Rodrigo.
So for me, yeah, this is a really tricky question because I think nationhood is also like a part of the modernist aspect, like the way that different nations were built from the colonial project. So like in my own research, when I am approaching it from a more theoretical perspective, I can definitely be more critical about it because in my country, in Brazil, like I define nationhood as a fiction as well. Like a lot of the official discourses that we have regarding a nation can be seen as fictions that we collectively decide to agree or disagree with. In Brazil, this official narrative was built by the elites, by like the really rich intellectuals that were connected with the plantations, therefore with the colonization process. After like the slavery was abolished, and there was this movement of the intellectuals to define what was this nationhood. So I think that a lot of people were left behind in this process, right? Like to define nationhood. So right now in contemporary times, we are trying to redefine what is nationhood and embrace this idea of being proud of your nation. But for making this movement, I believe that we need to be really careful, attentive, because there are a lot of protagonists in game, right? Like it's not something that we can take for granted that it is already like represented as something defined by everyone, by a collective. Like it's actually always in a process of being built. Mm-hmm. And we need to understand how to invite different voices to compose nationhood, to understand this collective that we are building as a nation. So in Brazil, in art history specifically, there were a lot of different moments in this process of building nationhood. And in a lot of these layers, there were a lot of prejudice. There was a lot of prejudice. There was a lot of internalized racism and a lot of different perspectives that placed, for example, gender and sexual dissident people out of these narratives as well. So I think our times are really interesting times to live in, even though it's hard because I think we have been much more aware of all these collective struggles. We are in touch with much more information in these regards. It's a process like to be able to grasp all these intersectionalities, mm-hmm. and understand how they can be addressed as part of the nation identity. Regarding like my place as an artist, a lot of artists, like contemporary artists from Brazil, they have refused the idea of being identified as only Brazilian artists because sometimes they feel that they are kind of like framed in this way and then they are kind of tokenized or mm-hmm. they can only be political and they cannot be subjective. Mm-hmm. But for me, I love to be Brazilian. Like I identify myself as a Brazilian artist and as a Brazilian researcher as well. So like, because I believe that a lot of the things that inform my personality, inform my subjectivity, come from these fragments that compose the Brazilian identity and the very idea of a Brazilian nation, with all the complexities, all the controversial aspects of being Brazilian. But I still believe that I need to embrace this idea of Brazilianness. I can go deeper in these discussions and understand all these intersections.
Mm-hmm. Yes, really interesting. Mm-hmm. We will come back to this point of la posture qu'on peut occuper en tant que chercheur, chercheuse. Donc, c'est de plus en plus présent dans les recherches académiques que de
Puis là, on peut réfléchir aussi aux théories du point de vue situé, savoir situé. Donc, poursuivons avec Cassandra par rapport à cette conception ou cette définition que tu pourrais donner du nationhood de ton côté.
Je vais dire un peu comme Rodrigo, c'est quand même assez complexe de définir le nationhood. Mais comment que je l'interprète dans mes recherches, c'est vraiment que au niveau canadien, ce que j'ai remarqué, c'est que on parle du multiculturalisme canadien anglophone, puis l'interculturalisme au Québec, puis souvent c'est sous-entendu, mais ce n'est pas adressé directement que la norme est une certaine blancheté, donc la norme est blanche. Puis que c'est ça qu'on construit en créant les discours sur le multiculturalisme canadien qui remonte à 1970, qui a été fait par le gouvernement fédéral à cette époque-là. Il y avait la volonté de dire, bon, toutes les communautés diverses, tout se vaut, mais en fait, il y avait quand même une réponse qui a été créée par la province au Québec qui a prôné l'interculturalisme, qui mettait de l'avant justement le français, puis de construire une identité là-dessus. Il y a des nouveaux mouvements qui se créent, dont l'antiracisme aussi, qui viennent poser de l'avant la nécessité de nommer la race, puis le racisme qui est présent par rapport à la création du nationhood. Parce que c'est pas objectif comme terme, puis il y a des dynamiques sous-tendues à tous ces concepts-là, même au sujet de l'EDI, équité, diversité, inclusion, il y a toujours cette question-là de qui inclut qui, mm-hmm. puis c'est qui qu'on va chercher, puis pour qui est justement responsable de garder l'espace discursif d'une certaine façon.
En fait, par rapport aussi à cette thématique-là, ou ce mot-là, en effet, qui est très complexe, mm-hmm. et comme Rodrigo le mentionnait aussi, ça va varier au gré des époques aussi et des discours, mais il y a aussi une trace historique ou archivistique aussi qui peut venir, j'allais utiliser le terme « contaminé », mais comprenez-moi bien, là, les gens à la maison, je mets des guillemets, là, mais que ça demeure, que ça... C'est un discours, comme tu le mentionnes, Cassandra, mm-hmm. qui est teinté constamment. Mm-hmm. Donc, c'est difficile, en effet, d'en faire quelque chose de figé et de fixe. Donc, c'est quelque chose qui est assez mobile, comme ben, les rapports identitaires sont ainsi faits aussi. Je veux dire, une identité fluctue au gré... des époques qu'on traverse nous-mêmes mm-hmm. en tant qu'individus. Je serais curieuse justement par rapport à ton étude de cas, Cassandra, comment cet élément-là peut être, j'allais dire, un instrument, un outil. Est-ce que ça peut servir ou ça dessert au final quand on prend cette perspective-là?
De connaître, de prendre en compte le nationhood?
Oui.
Bien, ça sert nécessairement parce que les musées sont justement des créateurs d'histoire et sont en lien très étroit avec le pouvoir, d'une certaine façon. Donc, d'être conscient de la place qu'occupent les musées dans la narration nationale, parce que c'est ça qui crée, en fait. Quand on parle d'un musée d'histoire canadien ou des choses comme ça, bien, on construit, puis on déconstruit aussi l'histoire. Donc, c'est d'approcher ces expositions-là avec un regard critique. Puis de se demander aussi pourquoi que certains sujets prédominent tandis que d'autres restent, comment qu'on pourrait dire ça, pas stigmatisés, mais plus marginaux, si on veut.
Mm-hmm. Ouais. Oui, tout à fait. Puis par rapport à tes deux cas d'études, il mm-hmm. Y en a un qui est vraiment situé à l'intérieur d'un musée,
oui.
Puis un autre où l'exposition était dans les lieux publics. Mm-hmm. Est-ce que t'as remarqué ou tu as réfléchi à la réception versus à l'intérieur d'une institution versus dans l'espace public? Est-ce que quelque chose de la nation, si on peut dire, encore là, je remets les guillemets, mm-hmm. Qui ont eu un discours différent sur les deux institutions? C'est sûr que c'est pas le même contexte non plus, mm-hmm. une à Montréal, l'autre à
Victoria.
À Victoria, oui. Exactement. Mais est-ce que tu as creusé un petit peu sur...
Bien, c'est sûr que de mon côté, quand que j'ai regardé les histoires qui étaient construites par rapport aux deux quartiers chinois, Victoria qui est le plus ancien, Montréal qui est le seul quartier chinois francophone en Amérique du Nord, il y a quand même des dynamiques où ces deux quartiers-là, quand on les regarde, on, à une certaine époque, en 1930 peut-être, c'était des quartiers qui étaient considérés comme insalubres. Puis, à travers l'histoire, dans les années 80, il y a comme une volonté de redorer les quartiers qui s'est faite en collaboration avec justement les gouvernements, les États à ce moment-là, municipal puis provincial. Puis justement, il y a des urbanologues comme Jonathan Shaw qui parlent de, pour le quartier chinois de Montréal, qui parlent de la muséification des quartiers chinois à ce niveau-là. Puis, dans mon analyse comparative, justement, j'amène une comparaison entre le quartier chinois de Victoria, puis sa réplique qui est faite au sein même du musée du Royal BC Museum, puis le fait qu'il y a une exposition temporaire à même le quartier chinois de Montréal, qu'il y a des personnes qui travaillent dans le communautaire, puis des activistes qui critiquent la municipalité de Montréal, d'une certaine façon, de ne pas prendre en compte que ce n'est pas seulement un patrimoine bâti, mais il y a des personnes qui vivent à l'intérieur. Donc, il y a quand même une dynamique intéressante, je trouve, à l'intérieur de ça, où que, oui, on a le musée qui réplique un quartier chinois, mais on a aussi le quartier chinois qui existe, mais qui relève d'une construction historique aussi, dans le sens que les quartiers chinois ont été enchinoisés d'une certaine façon, puis ça a été une décision entreprise par les municipalités. Donc, il y avait une commande qui a été faite avec des artistes d'origine chinoise, en fait, qui étaient en Chine, à Shanghai, pour faire les arches, en fait, du quartier chinois. Puis ces mêmes artistes-là, en fait, quelques années avant, ont participé à la construction du jardin chinois dans le jardin botanique. Donc, il y a cette dynamique-là où, que justement, ben, on y pense pas, mais le jardin botanique est considéré comme un musée des sciences, mm-hmm. au final. Il y a vraiment tous ces liens-là qui se créent entre une certaine orchestration ou scénarisation du décor.
J'aimerais faire un passage maintenant d'une institution muséale, de l'institution muséale, vers une autre institution qui est l'université. Quand on a fait notre pré-rencontre, on a parlé de ta venue au Canada, de ton choix de venir étudier à Concordia. J'aimerais savoir, au sein de l'université, est-ce qu'une vision de nationhood change ou comment elle a été nourrie autrement?
This question has a lot of layers. But for me, yes, so the first thing I would say is, as a Brazilian here, I am much more racialized than I am in Brazil. And this is also related to the whole process of nationhood in Brazil. Because as Cassandra was saying, there's also this ideal of whiteness that kind of make people not connected with their other ancestors. So they just want to relate with whiteness. And this is part of this idea of the construction of the modern subject. The modern subject was idealized after the European paradigms and models. For me, being here is also I needed to be sure how to communicate my ideas as a representative as well of racialized communities, which in Brazil is kind of different. My discourse there in Brazil is much more careful in this regards because I can be easily framed as a white person in Brazil. Believe it or not, I define myself as a white mestizo in Brazil, right? So I have the privilege of being a white person in Brazil, versus here I don't have this privilege. But the very fact that I can be in academia and that I could move here already is a symptom of the systemic operations and how I have more passing, right? I can pass easier through these institutions and through these logics, these dynamics. So what I do is that I try to think about this position in a critical way where I am, yes, I am kind of an ambassador. I see myself as an ambassador, it's really difficult for me to disassociate from this idea of being an ambassador. Mm-hmm. Because when I go to Brazil now, I am a historian that I am collecting this knowledge. I am also trying to be really dialogical and represent my communities in Brazil, the artists, the trans communities, the queer communities, the BIPOC communities in general. So like it's a huge responsibility to be the one channeling all these narratives from to a North American audience. And I guess like to be here in a more progressive institution as Concordia is also be able to create these tensions. I think that they are necessary. Like we are here like as thinkers to create tensions with the institution, with the historics, like with all these journeys, all these legacies of the institutions. So academia is historically a place of power, of like disputing and negotiating power, and who are able to perpetuate discourses, right? Like how we're gonna perpetuate these discourses and these histories. So for me, being in this position is also be open to modify my framework, my theoretical framework. When I came here, I didn't have all these tools to put together like the theoretical framework with a Brazilian practical framework. And now I feel more ready to connect all this framework. I guess like what changed a lot from being here in my research was the idea of using an indigenous North American perspective, for example, to talk about Brazil as well, and to stress the correlations between North America and South America, because there was like we always had this correlation actually, and Brazil was always influenced by the US more specifically, and a lot of political interests have been entangled. That's why like we are still a colony in Brazil as well. We are still being targets of extractivism and of a neo-colonial agenda. So I believe that as an art historian and understanding the power of images and how they create this nationhood discourses, I try my best to knit together these theoretical frameworks and to inform their correlations.
Mm-hmm. En fait, moi, j'ai commencé mes études en histoire de l'art. Ça remonte à il y a pratiquement 20 ans. Et je vois ce changement arriver justement dans les manières de penser, les manières de faire. Cependant, il y a toujours, je trouve, les structures dans lesquelles le reste de la société est inscrite qui demeurent encore tellement fortes que des fois, je me demande comment on peut arriver à naviguer à travers tout ça. Et en fait, je me demande comment on va pouvoir vraiment créer des ruptures sans être réapproprié dans un sens ou... Bref, c'est vraiment, en ce moment, au niveau de la recherche ou même dans les institutions aussi, beaucoup en muséologie, on se questionne sur les approches décoloniales aussi. Mais il y a toute une manière de faire que je me demande combien d'années ça va prendre encore avant qu'on sente les changements. Donc moi, ça m'amène à poser une question qui n'y aura peut-être pas de réponse ici aujourd'hui dans le balado. Mais est-ce que ces institutions-là sont encore les bonnes? Est-ce qu'on devrait travailler ailleurs? Parce que ma question vient aussi de cette idée de discours polyphonique, donc d'entendre plusieurs voix. Quand on continue de regarder les CA, quand on continue de regarder les corps professoraux, quand on continue de regarder, même au niveau des étudiants et étudiantes, la diversité est peut-être plus présente, oui. Suffisamment présente, je le sais pas. Donc, je me demande comment on peut s'assurer, en fait, c'était une très grande question parenthèse, mais comment peut-on s'assurer d'entendre et de voir les discours polyphoniques dans ces institutions-là, que sont le musée et l'université. Je ne sais pas si vous voulez joindre votre voix à la mienne et me dire un peu où vous en êtes par rapport à ça ou ce que vous constatez. Je sens, Cassandra, que tu as quelque chose sur le bout de la langue.
Ben oui, c'est ça. J'essaie de formuler une idée, en fait. C'est sûr qu'au niveau académique... Mais au final, t'sais, on pourrait être radical puis dire qu'il faudrait tout déconstruire puis changer de système, ce qui ne sera pas facile et ne se fera pas du jour au lendemain. Mais quand je pense à ma réalité au quotidien, comme étant candidate à la maîtrise, même moi, au niveau de mon identité comme personne mixte, c'est vrai que quand on pense à la diversité au cycle supérieur, il y a des opportunités qui sont nécessairement créées, qu'on voit qui sont mises en place, mais ça manque à certains endroits. Au niveau aussi des muséales, on peut voir qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour essayer d'inclure. Puis comme dans le cas du Centre des mémoires montréalaises, ben le titre le dit « Centre des mémoires montréalaises ». Donc, ils ont fait une réforme justement du musée puis de leur nom pour changer du Centre d'histoire de Montréal pour ce nom-là qui se veut, je ne sais pas si on pourrait dire inclusif à ce niveau-là, mais oui, pour reconnaître qu'il y a une pluralité présente dans la population de la métropole. Puis que ces voix-là sont à mettre de l'avant aussi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse idéale. Là. J'aimerais ça. Oui. Je me pose des questions aussi, mais c'est toujours en suspens. Là. Je pense que c'est un processus. Ouais.
Mm-hmm, en ouais. effet. Puis je pense que c'est ça un peu le vertige qu'on peut ressentir en tant qu'étudiant, étudiante au cycle supérieur en ce moment. Du moins, c'est mon sentiment de cette idée de déconstruction, désapprentissage. Mm-hmm. Là, je fais référence un petit peu aussi, bien sûr, aux pensées de Albert Stamm en lien avec les perspectives queer aussi. Mais de là à les mettre en pratique, concrètement, dans un cadre qui est encore tellement, je dirais...
rigide.
Oui, merci. Merci, exactement. C'est tout à fait le mot qui me passait, puis j'allais dire encore tellement colonial aussi. Mm-hmm. Donc, mais même nos propres postures par rapport à cette conception-là, on parlait un peu de comment on se positionnait, ne serait-ce que par rapport à cette notion-là de colonialité, décolonialité aussi. J'ai l'impression que c'est un projet qui est quand même plus grand que nous.
Ah oui. Oui, oui.
Yes.
Donc, je ne sais pas, Rodrigo, c'était suffisamment clair.
Bien sûr. yeah, for me, like I really like to approach this idea of decolonization as like an attempt, as like we talked before as well. Like I don't see it as an ongoing process. I don't think that we are decolonizing institutions. I think that we are attempting decolonization. And this happens because also, like, I prefer to say that I try to disrupt instead of break, instead of deconstruct, because, like, with my speech, I can only try to disrupt. So, like, for me, disrupting is more this idea of being inside and trying to change from inside, little by little, like, kind of like a hacker. Like, I am hacking a little bit of the structures, but I can't change the whole organism, the whole system. I try to see myself more this way, as a thinker that is trying to disrupt and attempt decolonization, than actually to be part of the decolonization process, because I think it's actually not fair to ask for the researchers to do all the work. Like, we can't decolonize everything. Actually, the institution needs to be decolonized first. Then we should be invited to participate in this process. And for me, this happens because, yes, like, as we were saying, academia is historically full of hierarchy. It was updated, like, the colonial ideals that were part of the eugenic ideals, like, of colonialism. They were updated with the scientific discourse from the 19th century and onwards, and then with the contemporary times, with the capitalist logics. So, like, everything is part of the same spectrum, and we are just trying to survive and thrive in the system. But I do agree that, like, the really important point is to think how academia can be more connected with the people's life. Like, because we are really apart from society. This is a huge problem. Like, we get so much into our bubbles of intellectual discussions, and then they are really powerful, they are really important, but sometimes they don't go back to society. And this is something that I think that I also don't have an answer, but we need to invest more time on thinking how to take this knowledge and redistribute this knowledge, right? Like, to share this knowledge. And I think this is also related with the idea of ownership, right? Like, that we own knowledge. We are taught in academia sometimes that you are kind of like an expert, and you are like in this process of owning all this knowledge, and it begins to be a competition. And I believe that as someone that is teaching and is in the process of also forming other minds, you know, creating this critical perspectives in students, we need to be aware of that mm-hmm. knowledge needs to be shared, and also the methodologies that we use can be more decolonial in the sense like how to be more horizontal and less mm-hmm. vertical with the students, ask them to engage with these platforms of knowledge instead of oppress them and make them feel not comfortable in the educational environments. So it's a long process. I think that right now what we have is more an idea of diversity, as we were saying, like is inviting people that are not only part of the hegemonic discourses mm-hmm. to integrate academia, to integrate what's going to be at stake, like when we are talking about narratives that are going to be perpetuated. But this is just the first step for me. So we are leaving the first step mm-hmm. before the colonial methodologies actually can flourish. The first step is to have more diversity and plural modes of existence being part of disputes mm-hmm. as well.
Bien, ça me fait penser justement à un autre élément qu'on avait abordé quand on s'est rencontrés avant l'enregistrement d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup la question aussi de l'éthique dans la recherche, mais de l'éthique dans le travail aussi. Puis on avait abordé l'idée de la censure aussi par rapport aux discours tenus, aux réflexions, en lien avec ces idées de déconstruction par rapport à la question identitaire ou encore en lien avec, si on y revient, avec le rapport à l'art et le nationhood. Je ne sais pas si vous auriez juste un élément à mentionner par rapport à ces points-là, ne serait-ce qu'en lien avec l'éthique ou encore la notion de censure dans le travail.
Est-ce que c'est moi qui se lance?
Do I need to begin?
Yeah, I don't mind. I can do. Okay. You can do. I don't mind. You can do it.
Okay. I'm sorry. It's a. I ask big questions.
For me, my ethics come from respecting my essence, respecting who I am, before everything. I believe that for me to survive this whole knowledge journey, which is really exhaustive. And demands a lot of our brain and of our physical and intellectual and emotional capacities. Yeah. Everything is involved. So for me, it's not always being in touch with my essence and also keeping a sense of affection. I am a really affectionate person. I come from a culture that we are really about touch, about hugging, about expressing our emotions really clearly. So I try to keep the sense, even though in Canada it's really different. But you are also warm in different aspects. And for me, it's kind of not losing that. And also learning how to use this essence, use affection as part of this attempt of being decolonial, for example. So I will always try to make an interview with someone, to visit a studio, visit a museum with this critical gaze and with this openness to this person that I am approaching, to this artwork that I am approaching. So for me, my ethics come from this place of being a human and reminding that I am not putting my subjects in a place of otherness. Mm-hmm. They are just they are talking with me. I am talking along. Mm-hmm. I'm not talking only about them, but I am talking with them. Mm-hmm. So as an academic, as a scholar, it's really important to quote plural perspectives, right? To be able to, if you are talking about indigenous, queer, black, mestizos, all these communities that have been historically marginalized and frame it as dissident, we need to be sure that we are engaging with their own knowledges. Mm-hmm. And we are introducing these knowledges as part of the conversation that we are trying to make happen in academia and in any intellectual context. The other part of her question.
It was about the censure.
Yes.
I don't know how to say it in English.
Yeah. Censorship. Censura. Mm-hmm. One of the reasons that made me move here to Canada was also due to censorship, how my country, how Brazil is right now facing a really conservative, ultra-right wing movement in power. Luckily, things will change soon because we are about to have an election. Mm-hmm. You can cut that if you want. But yeah, so I didn't feel safe in my country to have my political positions, my ethics, to be a person that cares about human rights and about diversity and plural cosmovisions. And so right now we are facing a really complex and hard scenario of a lot of illegal, extractivist mining operations, for example, in Amazon. And a lot of indigenous people getting killed every day in Brazil, and no one cares, no one talks about it. And a lot of LGBTQ plus communities being also murdered because everything is connected, right? Like, so for me, I actually can't disassociate my ethics from my political positions and from censorship. I think that they are mm-hmm. all related. So like the most we get in contact with human rights and with the idea of treating everyone equally, mm-hmm. we're gonna be censored in a level, right? Like this is how the system acts. And because it's kind of like it's structured in a way to keep the power relations and the hierarchies. So when you are critical about it, you're gonna face some censorship. Mm-hmm. So for me, actually, academia can be really important in this regards. It's a place where, in the end, you need to position yourself, like you need to create a really strong personality that you have positionality and you set your own boundaries. Mm-hmm. So you are respected as a thinker, and then you have agency over mm-hmm. these narratives, over this knowledge, and you can make a change, right?
J'ai plein d'idées.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, avec toutes les points que Rodrigo a amenés, ça m'a ramené en fait dans mon séminaire d'intersectionnalité qui est donné par Sirma Bilgey, puis qui ça m'a mis en contact avec la praxis, puis comment que justement il y a une application des théories dans l'action, si on veut, puis ça j'essaie de l'inclure dans mon quotidien. Donc risque, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis d'origine mixte chinoise, j'ai quand même un attachement assez intime avec le quartier chinois de Montréal parce que c'est comme un ancrage pour ma famille, même si ils font pas partie de l'histoire des quatre dernières générations de Chinois qui sont en sol canadien depuis 1850. Mais il y a justement cette volonté d'inclure les discours parce qu'il y a une lacune au niveau des représentations puis de la présentation, de la présence en fait des études en muséologie sur les diasporas chinoises. Donc ça, juste le fait d'écrire puis d'en parler puis d'amener ça de l'avant, pour moi ça fait un peu partie de mon... C'est ça, c'est au niveau éthique, j'imagine, d'avoir cette inclusion-là. Sinon, comment je me place, c'est sûr que, c'est ça, là, si je parle un peu de mes origines comme ça, ça me positionne, donc c'est de reconnaître ma positionnalité à travers tout ça, puis de voir qu'il y a une subjectivité dans ma façon d'approcher le sujet, puis il y a moi comme étudiante, il y a aussi moi comme chargée de projet pour le Centre des mémoires montréalaises, puis il y a toutes ces personnes-là, puis il y a aussi moi qui fais du bénévolat pour le quartier chinois, puis pour que les communautés chinoises soient reconnues par la municipalité de montréalaise. Donc il y a toutes ces dynamiques-là qui sont différentes, puis qui apportent à avoir des discussion, puis à échanger, puis la censure. La censure, en fait, je pense que c'est de reconnaître qu'il y a des systèmes de pouvoir, puis que, justement, oui, on peut partager nos idées, mais ça dépend toujours de la façon, j'ai l'impression aussi, qu'il faut que ça soit apporté, puis il y a des systèmes de pouvoir, puis c'est à toi de décider si tu joues le jeu ou pas, dans le sens d'embarquer, puis je pense que comme Rodrigo disait, il y a le disrupt. Donc, je pense que ça l'empêche pas non plus de vouloir même s'il y a peut-être une certaine censure, parce qu'il y a des craintes, je crois, derrière, on peut quand même participer, je crois. Oui. Mm-hmm. Oui.
Oui, bien, j'aime bien ce que ça a soulevé, cet échange-là, comme aspect lumineux et positif du rôle de la recherche en histoire de l'art ou encore en muséologie, où je pense que ça serait bon pour n'importe quelle autre discipline aussi. C'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être plus proactives ou plus vivantes de ce côté-là que certaines autres. Ce qui est intéressant aussi avec, si je peux me permettre de mettre mon petit chapeau de candidate au doctorat en histoire de l'art, qui est un doctorat qui est interuniversitaire, parce que tu mentionnes Sirma Belguet, qui est, je pense, à l'Université de Montréal, oui. si je ne me trompe oui. pas. Donc, on a cette possibilité-là aussi de faire incursion dans différentes mentalités ou visions ou missions de plusieurs universités. Donc, on a l'Université de Montréal, mm-hmm. Concordia, l'UQAM. Donc, on peut aussi discuter et entendre discuter de ces questions-là de manière différente par rapport au positionnement de l'université. Donc ça, c'est... Et des disciplines aussi dans lesquelles on se rattache. Donc pour ça, je trouve ça très riche. Et merci beaucoup, Rodrigo, parce que je vais faire du pouce sur l'idée de disrupt. Donc c'est intéressant de voir cette tentative-là comme un attempt et une façon de détourner, d'interrompre certaines chaînes qui sont établies. Donc ça fait voir un peu le projet moins gros que si... Donc soyons des... j'allais faire une image peut-être pas tout à fait juste. J'allais dire soyons des petits soldats de... Donc, mais il y a cette idée-là, justement, de la praxis et de l'implication militante, activiste. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette posture-là en tant que chercheur, chercheuse? Je le crois, ça dépend de... On peut avoir plusieurs niveaux aussi hein, mm-hmm. d'implication.
Oui.
On y va avec notre personnalité, notre essence même, nos valeurs toujours. Donc, il y en a qui sont plus... revendicateurs, revendicatrices, d'autres qui sont peut-être un peu plus petit pas par petit pas. Donc, reste à voir quelle position on prend. Donc, bien, moi, c'est ce qui mettrait fin à ce magnifique échange. Je ne sais pas si vous auriez, avant qu'on clôt cette discussion, des commentaires, d'autres éléments que vous souhaiteriez ajouter, des cris du cœur, angoisse. Donc, je vous écoute, Cassandra.
Bien, merci pour cette rencontre. Là. C'est tellement un bel échange. Puis c'était vraiment riche. Puis ça l'a vraiment beaucoup aidé aussi à ma rédaction là, de partager avec vous. Là. Ça l'a comme enrichi mes réflexions. Donc, je suis très reconnaissante.
Ah, mais super. Très contente d'entendre ça. Rodrigo.
Moi aussi, je suis très heureux d'être ici.
D'être ici.
And I think that always like some things... are not talked enough. Like, I always mm-hmm. have this feeling that some of my ideas were, like, lost in the process of talking, but it's also enriching, as Cassandra said, like, because in the end, it's a conversation. So, like, we are crossed by each other's ideas. And it's nice as well, like, to have this opportunity to talk in a less rigid way, like in a mm-hmm. balado. Mm-hmm. Les personnes peuvent... mention us, like quote us, pour parler de cette idée aussi. Donc, oui, c'est très intéressant et je suis très content. Merci.
Bien, merci à vous deux. Merci beaucoup aussi à l'équipe parce que nous faisons un transfert d'équipe à la fin de cette saison-ci. Alors, nous avons, on va le dire, là, elles ont été très discrètes pendant l'enregistrement, mais il y avait avec nous Valentine et Aurélie. Donc ici...
Allô! C'est un plaisir pour les deux dernières saisons. Puis je suis encore contente que Valentine reprenne les rênes. De travailler aussi avec toi, Pascal.
Oui, plaisir partagé. Alors, je cède ma place au micro pour les prochains et prochaines qui voudront se prêter au jeu. Et ce fut un grand privilège que de faire ce balado pendant trois saisons, donc depuis 2019. Et c'était des échanges tellement riches, des rencontres prégnantes avec qui j'ai gardé contact avec plusieurs d'entre vous, les personnes qui avaient participé. Donc, je tiens à vous remercier. D'ailleurs, c'est en grande partie grâce à Annex si je suis entrée au doctorat et je regrette absolument rien de mon choix. Alors, encore une fois, un très grand merci à toutes les équipes que j'ai rencontrées et un très grand merci de nouveau au Centre Phi parce que, oulala, c'est un très grand privilège que d'enregistrer le balado ici. Alors, sur ce, merci aux chers auditeurs et auditrices et à une prochaine!